Merci d'être à l'écoute de RFI. Il est 16h à Paris et à Kinshasa, 15h en temps universel et 18h à Mayotte. Le journal vous est présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition à Mayotte, dans l'île française de l'océan Indien, les dégâts sont considérables après le passage du cyclone. Tout manque et l'effondrement de bidonvilles de tôle fait craindre des centaines de morts. Le nouveau pouvoir et les émissaires internationaux s'affairent à Damas pour tenter d'organiser le futur politique de la Syrie. Les différents groupes armés veulent être représentés dans le fief de l'ancien régime. On craint des représailles. Reportage dans ce journal. Et puis on prendra la direction du palais de la Porte Dorée à Paris avec une visite guidée d'une expo. Des plasticiens ont investi l'élu. En France, les renforts de 800 personnels de la sécurité civile sont arrivés à Mayotte. La tâche est immense après le passage du cyclone sur l'île de l'océan Indien. Le bilan humain est très difficile à déterminer. Le téléphone est coupé, le réseau d'électricité hors d'usage et l'eau manque. Les autorités craignent des centaines de morts, surtout dans les bidonvilles surpeuplées qui se sont effondrées comme des châteaux de cartes. À Mayotte, au moins 4 habitats sur 10 sont des constructions précaires. Charlotte que c'est.
Souvent mise en avant, la situation des sans-papiers sur l'île expliquerait le développement des bidonvilles. Cependant, les problématiques administratives empêchent un grand nombre de pouvoir prétendre à un logement social, souligne Marie-Madeleine Salvanès. Elle a travaillé sur la réhabilitation individuelle et urbaine à Mayotte.
Donc en fait, on peut avoir un parent qui est français, l'autre qui ne l'est pas, et donc des enfants qui le sont, d'autres qui ne le sont pas, pour des raisons qui sont parfois assez aléatoires. En fait, au sein d'une même famille, on a des inégalités de statut administratif, et en fait, ces statuts-là empêchent les gens de pouvoir et travailler et quitter l'île. Et donc, du coup, forcément, en fait, ils sont contraints d'habiter dans des bidonvilles.
Malgré les préjugés, un grand nombre des occupants de ces habitats précaires sont soit français, soit en situation régulière, souligne Maître Marjane Guem. Elle a travaillé 10 ans sur l'île et notamment sur les contentieux d'expulsion.
Plus de 70% de la population à Mayotte vit avec moins de 3 200 € par an. Le SMIC à Mayotte est inférieur à la métropole. Il y a quand même une part assez importante de personnes de nationalité française, de personnes titulaires d'une carte de 10 ans ou de titre de séjour pluriannuel, qui travaillent, qui n'ont pas accès à une offre de logement social qui serait adaptée à des revenus aussi faibles. Donc, elles n'ont guère d'autre choix en réalité que de construire une case dans un quartier informel.
Dans un rapport publié l'année dernière, la Fondation Abbé Pierre mettait en avant des réponses publiques et des dispositifs d'intervention encore insuffisants et inadaptés.
Charlotte Cosset du service éco d'RFI. Retour dans l'Hexagone où François Bayrou tente de former son gouvernement et de s'assurer une majorité à l'Assemblée. Le nouveau Premier ministre reçoit aujourd'hui et demain les groupes parlementaires à Matignon, sauf la France Insoumise qui a refusé de s'y rendre. Ce matin, le Rassemblement National a ouvert le bal comme premier parti à l'Assemblée. À sa sortie, Marine Le Pen a salué la méthode de François Bayrou, jugée plus positive que celle de son prédécesseur Michel Barnier. Les socialistes, eux, ont indiqué être restés sur leur faim, faute d'indications claires pour la suite.
RFI.
La Syrie d'après Assad tente de fédérer ses forces et les Kurdes syriens veulent des garanties. Ils demandent aux islamistes radicaux du HTS d'ouvrir un dialogue entre toutes les parties du nouveau pouvoir. Dans le nord-est, ils redoutent une nouvelle offensive des groupes armés pro-turcs. Pendant ce temps, la diplomatie s'active à Damas. L'ONU, l'Union européenne envoie des émissaires. Dans la région côtière, ce n'est pas l'effervescence. Bien au contraire, les habitants du fief du régime déchu ont peur. Les villes se vident, la crainte des représailles est bien présente. Écoutez le reportage dans le village de la famille Assad à Kardaa de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
Assis le long d'une route défoncée, un groupe d'amis se rejoue en boucle la scène du 8 décembre. Des hommes par dizaines sont venus ici à Kardaa, village d'origine de la famille Assad, dans le but de pourchasser des loyalistes. Pourtant, nous ne sommes pas ici tous des pro-régimes, regrette Ahmed.
Dès que le régime est tombé, ça a été le chaos ici. Il y a beaucoup de gens qui ont la haine contre notre village. Une haine ancienne, mais la plupart des habitants ici n'ont rien fait. Ces personnes ont commencé à nous voler, on ne savait pas s'ils étaient de HTS ou non.
Tour à tour, il raconte, beaucoup dans ce village ont eu accès à des postes privilégiés au sein des administrations du régime. Ici, un employé du ministère des Finances, un ancien militaire, un gardien privé de la famille Assad à Damas. Soubi l'assure, il ne les a pourtant jamais soutenus.
Je n'ai jamais tué personne, jamais utilisé d'armes contre personne en Syrie. Je reste confiant, il ne m'arrivera rien. Seul Allah me fait peur.
À Karda, les voitures des pro-régimes ont été enfoncées, les maisons pillées. Il ne reste rien, ni les portes de placard, ni les lavabos, ni même les branches dans les arbres des jardins. Hassan est venu couper celle du parc réservé à la famille Assad.
Je coupe ce bois pour faire du feu à mes enfants car je n'ai rien pour les chauffer. Il n'y a pas de combustible ni quoi que ce soit d'autre à Karda. La vie est très dure ici. Et regardez-moi ce parc.
Selon l'ONU, depuis la chute du régime, près de 155 000 personnes ont été contraintes de fuir une deuxième fois. Manon Chaplin à Karda, RFI.
Et pendant ce temps-là, des familles sont toujours à la recherche d'un proche disparu après des années d'absence. Beaucoup font le tour des prisons du régime dans l'espoir de retrouver un ancien détenu. Un espoir que partage une famille aux États-Unis, celle du reporter Austin Tice. Il a disparu en Syrie il y a plus de 12 ans à New York. Les explications de Karine Otten.
La mère d'Austin Tice est optimiste. Elle a reçu des preuves que son fils, journaliste détenu depuis 12 ans en Syrie, est encore en vie. Mais la famille Tice a beau avoir renforcé la pression sur le gouvernement américain, Washington reste très vague sur le dossier d'Austin et affirme ne rien pouvoir confirmer. Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison Blanche.
Rien n'indique qu'il n'est pas en vie, mais il n'y a aucun indice non plus sur sa localisation ou sur son état. Donc notre objectif est de le ramener à la maison et nous espérons donc qu'il est vivant. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises auparavant, nous discutons de tout cela avec les Turcs car nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour le ramener chez lui. C'est une priorité de ce président et de cette administration.
Hostage Aid, une organisation spécialisée dans la libération d'otages américains, est convaincue que Austin Tice est détenu par des membres de la famille Assad pour pouvoir l'utiliser ensuite pour obtenir une rançon ou une sorte de protection juridique. Ce serait aussi la piste privilégiée par Washington. Les nouvelles autorités syriennes ont en tout cas dit vouloir coopérer avec l'administration américaine pour la recherche de citoyens américains portés disparus. Karine Otten, New York, RFI.
Et pour la première fois depuis sa chute, Bachar el-Assad s'est exprimé. Dans un communiqué, le président syrien déchu affirme ne pas avoir prémédité son exil en Russie. Il n'a pas, dit-il, fui de manière préméditée à la chute de Damas. C'est bien Moscou qui était à la manœuvre et qui a demandé son évacuation. La Russie, par ailleurs toujours mobilisée sur le front ukrainien, selon Kiev, au moins 30 soldats nord-coréens ont été blessés ou tués ce week-end dans la région russe de Koursk, une région partiellement occupée par les Ukrainiens depuis cet été. Un peu de culture qui sauve pour refermer ce journal à Paris. Le palais de la Porte Dorée accueille en ce moment et jusqu'en février une double exposition inédite. Chaque vie est une histoire. Inaugurée pour l'exposition coloniale de 1931, le bâtiment, devenu depuis le musée d'art et d'histoire de l'immigration, est investi par des artistes. Le musée a notamment proposé une carte blanche à 13 plasticiens contemporains. Sophie Torlotin.
Comment reprendre possession d'un lieu inauguré en 1931 pour manifester la puissance de l'empire colonial français? Mathieu Aboninck s'est confronté au salon Asie et Afrique.
Qui étaient en fait des espèces de showroom, des façons de montrer toutes les ressources disponibles dans les colonies de l'Empire français.
L'artiste français a créé une installation vidéo et choisi délibérément de laisser dans le noir les fresques représentatives de la prédation coloniale.
On se fait rattraper en fait par les puissances des lieux. Je sais pas, on est sur des hauteurs de plafond de 15 mètres. Donc il y a aussi toute cette puissance de l'Empire, elle a été manifestée dans ce lieu.
L'esprit du lieu a également frappé le plasticien togolais Koku Ferdinand Makouvia.
J'ai senti qu'il y a eu une vibration, en tout cas beaucoup de fois, des personnes qui ont travaillé ici pendant toute la période pour l'exposition coloniale.
Avant de réaliser son installation de sculpture en céramique,
Azézé Amandrin, les 7 vases de la haute connaissance initiatique.
Il est retourné au Togo.
Pour d'abord une cérémonie de pardon qui s'est transformé en une cérémonie de permission pour présenter les pièces dans l'espace.
Et cette installation insuffle au lieu une nouvelle identité en phase avec le 21e siècle.
Tout de suite, vous m'en direz des nouvelles avec vous, Jean-François Cadet. Bonjour.
Bonjour et merci. C'était le journal de Karine Bellichat.